Chapitre 27. Nous avions laissé derrière nous le centre de la ville souterraine et remontions maintenant en direction d'une des entrées, celle de Serre Longue. Du coup, la plupart des pièges destinés à des envahisseurs venus de l'extérieur se présentaient à revers. Nathan ne cachait pas son soulagement. « Si mes souvenirs sont exacts, annonçai-je, encore un carrefour et nous y sommes. » C'est fou le travail que représentent toutes ces galeries, les milliers de mètres cubes de terre et de résidus de roches qu'il a fallu transporter, les fresques, les pièges à concevoir, à mettre en œuvre. C'est aussi pharaonique que les pyramides. À quelques différences fondamentales près. Lesquelles? Les pyramides ont été construites par des milliers d'individus pour la gloire d'un seul et sous la menace. Si on avait laissé les hommes libres de leurs choix et de leurs souffrances, elles auraient mesuré 2 mètres de haut. Alors qu'ici, les travaux ont été effectués par des volontaires. Personne n'a eu la langue coupée après, personne n'a été enseveli pour préserver le secret de ces murs. C'est pas du tout la même chose. On n'est plus capable de pareils projets aujourd'hui. De nos jours, chacun d'entre nous accomplit des choses bien plus spectaculaires et plus complexes qu'au temps de cette cité. Ce qui nous manque, c'est un but commun et un esprit de groupe. Pense à tout ce qui était nécessaire pour bâtir cet endroit. Une conception pointue et précise, assurée par quelques savants, des milliers de bras accomplissant ensuite des tâches intrinsèquement simples, mais répétées à l'infini. Sortir une charge de terre, sculpter un bloc de pierre, tailler une marche. C'est pas compliqué en soi, des milliers de gens savaient le faire. Mais le répéter des millions de fois pour construire ces galeries et tout ce qu'elles contiennent, c'est une autre affaire. La seule supériorité des frères était de savoir imaginer, motiver et coordonner. À présent, chacun travaille pour soi, les États se substituent aux volontés collectives et l'individualisme est roi. Plus personne ne prend un an de sa vie pour aller aider à la construction de ce qui le passionne, que ce soit une cathédrale ou un stade. Chacun paie et considère avoir fait ainsi sa part de travail. À force de déléguer toutes les tâches de la vie collective, et même celles de la vie domestique, les individus ont perdu la capacité de se débrouiller par eux-mêmes et sont devenus dépendants de l'argent. Avant, les grandes causes unissaient des bras et des esprits. Maintenant, elles empilent des chèques. Qui de nos jours quitterait tout pour aller accomplir ce que lui dicte sa conscience, avec pour seul salaire une assiette pleine, un toit et sa fierté ? Les rares qu'ils font sont présentés comme des héros, alors qu'à l'époque de cette cité, c'était naturel. Aujourd'hui, pour bâtir un ouvrage comme celui-ci, on prendrait des promoteurs rabotant sur les coûts pour mieux remporter l'appel d'offres, et on irait chercher des populations étrangères sous-payées, méprisées et haïes dès que redevenues inutiles pour faire le travail manuel. On ne connaît même plus les bases de notre civilisation. On a perdu tout contact avec ce que nous sommes vraiment. La vie ne se résume pas à courir après le meilleur forfait téléphonique ou à hésiter entre 15 variétés de café. Pour partir à l'étranger l'été et au ski l'hiver, regarder des centaines de chaînes de télé, surfer sur Internet, passer des heures à échanger sur les réseaux sociaux ou rouler dans une hybride, il faut d'abord être vivant et libre. On l'a oublié. Ça va nous coûter cher. Ici, ce n'est pas un ministère ou l'ONU qui a décidé des travaux. Ce sont des humains, guidés par un rêve, par la foi. Ils l'ont fait d'eux-mêmes, chacun y apportant ce qu'il pouvait, toujours leur force, parfois leur savoir, souvent leur vie. C'est l'addition des volontés qui a donné sa puissance à ce lieu. Aujourd'hui, on décide de créer un mouvement et on y astreint les volontés. C'est tout l'inverse. Et cela donne notre siècle. Seule la forme compte, au mépris du fond. On ne croit plus en rien, on tourne en rond. La solution est dans les rêves de chacun, une fois qu'on aura surmonté le superflu qui nous entoure. En attendant ce temps, que nous ne verrons probablement pas dans cette vie, il faut des gens comme nous pour empêcher les escrocs planétaires, les asservisseurs de l'esprit et les pourvoyeurs de désirs artificiels de faire de l'humanité un tas de moutons. On s'efforce de contenir les salauds en attendant que les endormis se réveillent. Et la nuit blanche dure depuis des siècles. On se bat autant pour eux que pour nous, et même si on a tout faux, on aura quand même accompli de belles choses. Ça aide à y croire les soirs de défaite. Nathan me regardait, une expression grave sur le visage. Je m'arrêtai. « Tu fatigues? Tu veux faire une pause ?»«
Certainement pas !» rétorqua-t-il. « Quand je t'entends parler comme ça, j'ai envie de m'y mettre tout de suite et de ne plus jamais arrêter. »
Je hochai la tête. Nous reprîmes notre marche et passâmes encore une bifurcation. « Ici, c'est l'embranchement qui permet de rejoindre les magasins, » expliquai-je. « Quand tu venais de l'extérieur, soit tu prenais ce couloir que tu vois vers le haut pour gagner la cité et les entrepôts de denrées et de matières premières, soit tu prenais vers le bas pour rejoindre le grand carrefour que nous avons traversé tout à l'heure. Le carrefour du haut ne dessert pas les mêmes endroits que celui du bas. Celui où nous sommes passés est le point de jonction entre toutes les galeries longues, celles qui mènent loin du château, alors que celui du dessus relie les différents quartiers de la cité. Le carrefour du haut grouillait toujours de monde alors que seuls les frères partant en mission à l'extérieur ou en revenant empruntaient celui du bas. Nathan hocha la tête. Je le voyais emmagasiner toutes les informations que je lui délivrais. Un drôle de travail de mémorisation, sur beaucoup de plans. « Il reste probablement une part de ces souterrains que nous n'avons pas encore découverte, » repris-je. « Des pièces murées à la hâte au moment de la prise du château, des galeries éboulées conduisant à d'autres salles. C'est pour toutes ces raisons que nous n'avons pas trouvé tous les laboratoires. » Quand le château a été considéré comme définitivement perdu, tout ce qui était précieux en a été évacué par les passages secrets dans lesquels nous nous trouvons. Ce qui n'a pu être enlevé à temps a été caché sur place dans des pièces scellées, peut-être dissimulé derrière des passages effondrés. D'après les écrits auxquels nous avons eu accès, le laboratoire principal n'a pu être déménagé à temps. C'est celui-là que nous recherchions lors de notre première expédition et que nous devons trouver aujourd'hui.
« Je comprends mieux. On ne connaît donc pas tous les pièges qui nous guettent. »«
Non. Avec de la chance, ils peuvent ressembler à d'autres, vus ici ou ailleurs. » Il leva la main pour m'arrêter.
« Ne cherche pas à me rassurer. Tu peux être franc. Je t'ai dit que j'irai jusqu'au bout, et je le ferai. Pour toi, pour moi, et parce que je pense que les idées que vous défendez sont bonnes. »«
Bien. Alors voilà où on en est. » On ne sait pas ce qu'on peut découvrir, on ne sait même pas s'il y a encore quelque chose à trouver, et on va devoir se battre à la fois contre ceux qui sont venus fouiner et contre les pièges que nos prédécesseurs ont tendus.
Nathan émit un long sifflement.
Une chance que je n'ai rien de prévu pour le 31.
Sa remarque me rappela qu'il ne restait que 3 jours avant la fin de l'année. Avec ce qui se passait, je l'avais oublié. Le reste du monde devait préparer la fête. Tout cela semblait tellement loin. Une sensation bizarre me ramena à l'instant présent.
« Tu ne trouves pas que l'odeur est différente ?» demandai-je à Nathan, humant l'air par petites inspirations. Nathan renifla à son tour et secoua la tête.
« Non, je ne sens rien. On dirait que l'air est plus humide par ici.
Pourtant les pierres sont sèches. Il n'y a pas de traces d'infiltration. »
Peut-être un piège?
Pas si près de l'entrée, je m'en souviendrai.
Regarde, il y a quelque chose qui brille.
Par terre, des objets indistincts accrochaient la lumière de nos lampes. Je balayai de ma torche les parois, les plafonds et le sol, tandis que Nathan avançait devant moi. Il n'aurait plus manqué qu'un piège oublié.
Nathan s'accroupit pour mieux voir.
Ce sont des débris métalliques. Constata-t-il. On dirait du matériel électronique, mais quoi que ça ait pu être, c'est salement tordu.
N'y touche surtout pas.
Ça a l'air récent et ce n'est pas nous qui avons laissé ça ici.
Ça doit venir de chez eux.
Nous sommes tout près de la zone située sous la base adverse.
Ils ont peut-être voulu passer des trucs télécommandés dans le conduit et leur matos est tombé.
Le métal a l'air un peu trop torturé pour n'avoir fait que chuter, même d'assez haut. En inspectant le sol, je découvris un peu plus loin l'objectif de ce qui avait dû être une caméra miniature. Il y avait aussi des roues, des composants électroniques de circuits imprimés épars et des traces de terre fraîche, mais aucune empreinte de pas.
Tu crois qu'ils ont introduit un petit robot pour filmer l'intérieur et découvrir la porte?
Possible.
Leur jouet est peut-être tombé dans un piège?
La destruction paraît trop violente. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer avec du matériel pareil et dans cet état?
Comme une réponse à ma question, le sol trembla. La terre sembla s'ébrouer sous nos pieds. Nous eûmes du mal à rester debout. Un grondement sourd fit vibrer les parois et de la terre pleura des fissures entre les dalles du plafond. Des blocs de pierre se détachèrent et s'écrasèrent à quelques mètres de nous.
Demi-tour, vite !
Le son assourdi semblait venir de partout à la fois pour remonter dans nos organes. La galerie donnait l'impression d'être à la limite de la rupture. On se serait cru en plein tremblement de terre. Partout des éclats de roches tombaient en rebondissant sur le sol. Devant moi, Nathan courait pour échapper au cataclysme, traversant des nuages de poussière.
Ils ont sûrement essayé de trouver la porte avec leur foutu gadget, criai-je. Ils ont échoué, mais ils ont repéré la galerie. Ces enfoirés sont en train de creuser leur propre entrée à coups d'explosifs.
Le grondement parut décroître, mais nous courions toujours. Les faisceaux de nos lampes valsaient sur les parois du tunnel. Arrivé au grand carrefour du bas, je m'arrêtai essoufflé, tendis l'oreille. Rien. C'était fini. Je m'adossai contre le mur, les mains sur les genoux, cherchant ma respiration. Nathan récupérait déjà, mais il était très pâle.
Il perce à l'explosif pour accéder à la galerie? C'est bien ce que tu m'as dit?
C'est certain. Et c'est pas la première charge qu'ils font péter. C'est pour ça que l'air est humide. Le tunnel doit être endommagé plus loin vers la sortie. La terre a dû s'ébouler. Je dois prévenir Derek. Ces dingues vont tout détruire.
On aurait dû prendre des talkie-walkies.
Ne regrette rien. Ici, avec la terre et la roche, rien ne porte à plus de 10 mètres.
Tu ne veux pas retourner voir les dégâts?
Trop dangereux. On n'a pas de matériel. Les salopards, ils font ça la nuit. Comme ça, ni les autorités locales, ni les habitants ne peuvent savoir comment ils pratiquent leur fouille. Nous prîmes le chemin du retour à grands pas. Je réfléchissais déjà à ce que nous pouvions faire pour protéger la cité. Quand nous dévalâmes l'escalier, longeant le concierge, Nathan lui fit une gratouille derrière ses hideuses oreilles. En moins d'une demi-heure, nous étions revenus à la crypte, hors d'haleine.
Comment se fait-il que personne n'ait remarqué ces bouches d'aération avant que vous ne veniez faire des études dessus?
Elles sont bien camouflées. Le conduit émergeant à l'air libre est le plus souvent couvert d'un roc dont les fissures naturelles forment l'arrivée d'air. Qui irait s'intéresser à un rocher posé là depuis des millénaires avec quelques entailles et des trous qui ne peuvent abriter que des petits animaux? De nombreuses légendes locales doivent leur origine à ces conduits. Il arrivait que les paysans entendent des voix venues d'on ne sait où dans les endroits les plus incroyables. On parlait même de pleurs d'enfants ou de hennissements de chevaux. Ils se racontaient ça à la veillée, en rajoutant chaque fois un peu, et, quelques siècles plus tard, ça donne des lutins et des mondes magiques. Je réussis à me hisser hors de la crypte. Avant même que j'aie pu me retourner pour lui offrir mon aide, Nathan avait bondi au dehors. Nous replaçâmes la dalle pour masquer le trou. Au moment où elle retombait, il nous sembla entendre un nouveau grondement souterrain lointain. Cela ne nous poussait que davantage à faire vite. Nathan alla chercher nos VTT pendant que je maquillais les contours de la dalle avec de la neige. Il se frotta les paumes l'une contre l'autre pour se réchauffer et ajusta sa lampe frontale. Je jetai un coup d'œil à ma montre. Il était un peu plus de 3 heures du matin. Il faisait toujours aussi froid. Le vent s'était même levé. Nathan dévalait déjà la pente, glissant légèrement sur la neige gelée, lorsque je démarrai à mon tour. La descente fut plus mouvementée que l'ascension, nos bras et nos cuisses encaissant douloureusement les irrégularités des sentiers défoncés. La fatigue rendait chaque mouvement imprécis, les faisceaux de nos lampes oscillaient entre nos guidons et le ciel, n'éclairant le chemin que par instant. Nous regagnâmes la route. Les souterrains étaient loin de nous maintenant, mais pas pour longtemps. Nous allions poursuivre un combat commencé 8 siècles plus tôt, au même endroit et pour les mêmes enjeux.